franceinter.fr.
Hors de contrôle depuis mars 2016, la station spatiale chinoise Tiangong 1 va donc retomber sur Terre. On cherche à savoir où, parce que ça va se passer ce week-end et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai perdu le signal.
On cherche le signal. On les perd.
Échec de la recherche.
Plus de contact. Le système de télémétrie ne répond plus.
On a perdu le signal. Aucune commande de la station ne répond plus.
Vous avez lancé un démarrage du système?
Plusieurs fois, oui.
Jetez un coup d'œil là-dessus. Ça, c'est notre station Salyut-7. Elle pèse 20 tonnes et mesure 15 mètres sur 6.
La station se trouve où en ce moment?
Au-dessus de l'Atlantique.
Voilà un extrait du film russe Salyut 7 sorti l'année dernière. De son côté, la station spatiale chinoise Tiangong 1 est un peu plus petite que son homologue russe, perdu donc en 1991. Elle pèse 8 tonnes, mesure la taille d'un grand bus et selon les dernières estimations, elle devrait retomber sur Terre dimanche et certains débris atteindront très certainement la surface de notre planète. La grande question, Axel, est maintenant de savoir où elle va tomber et on en discute avec notre invité.
Oui, nous sommes avec l'astronome Florent Delefly. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Observatoire de Paris, à l'Institut de mécanique céleste et du calcul des éphémérides. Mmh. Alors, comment ça se fait qu'on ne sait toujours pas où elle va tomber alors qu'elle est perdue depuis 2016 et que ça se passe ce week-end?
Alors, c'est un petit peu le paradoxe. On connaît très précisément la forme de la trajectoire, mais l'endroit où la trajectoire va s'arrêter, ça, on ne le connaît pas encore. On le saura demain ou après-demain.
Ah, C'est très peu de temps
avant l'événement parce que en fait il faut être capable de connaître l'intensité du freinage atmosphérique à tous les instants qui nous sépare du moment de la chute finale et ça c'est quelque chose qui est très compliqué de faire avec précision.
On peut pas l'anticiper en fait, c'est ce que vous pensez ?
Dans une certaine mesure oui, mais comme on parle de vitesse de l'ordre de 7 km par seconde, donc pour avoir le lieu de retombée précis. C'est quelque chose qu'il est très difficile d'avoir longtemps à l'avance.
C'est un sujet de préoccupation vraiment pour les agences spatiales cette semaine ?
Alors cette semaine, oui. La semaine prochaine, ce sera sans doute un autre objet dont on parlera moins parce qu'il sera moins médiatique et l'objet sera de taille peut-être plus réduite. Mais ce genre d'événement, c'est le lot hebdomadaire de toutes les agences en charge de la surveillance de l'espace.
Cela dit, on en parlera moins. Tout dépend de l'endroit où va s'écraser quand même la station parce que...
Tout à fait.
Dans les scénarios, on va le voir avec vous, tout est possible.
Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, il y a aussi beaucoup de choses qui ne le sont pas. Et ça, c'est rassurant.
Alors, la seule chose qu'on peut dire pour le moment, c'est les endroits où elle ne va pas tomber. C'est ça qui est certain.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'on peut en citer, en tout cas expliquer pourquoi il y a des endroits précis où elle peut tomber et des endroits où elle ne peut pas tomber?
Alors, d'une manière générale, toute orbite passe au-dessus d'un certain nombre de points au-dessus de la Terre. Et en fonction de ce qu'on appelle l'inclinaison sur l'équateur, certains lieux ne sont jamais survolés par les satellites. En général, quand les latitudes sont assez élevées. Donc, par exemple, pour la France métropolitaine, tout ce qui va être au nord de Perpignan, au nord de Pau, n'est pas concerné par la chute de la station.
Il y a des villes concernées, Le Cat en France, Bastia, Propriano pour la Corse, Boston, Atlanta aux États-Unis. À quoi correspondent ces villes? Pourquoi elles sont citées précisément?
Alors ce sont des endroits où il y a une densité de population plus importante que dans bien d'autres endroits constitués de déserts, d'océans. Donc si jamais il y a des débris qui tombent sur ces lieux à densité de population forte, effectivement on en entendra encore parler la semaine prochaine. Mais tout laisse à croire. Si on regarde les statistiques et l'expérience de plusieurs dizaines d'années maintenant, qu'il n'y aura pas de dommages sérieux au sol.
On sait calculer la probabilité qu'une de ces villes soit touchée ?
Alors, on a un endroit donné, on cite souvent la probabilité d'un sur 10 000. Alors, ça veut à la fois dire beaucoup et pas beaucoup, parce que... Bon, mais en général, vu la répartition des terres émergées des océans à la surface de la Terre, les retombées quand il y en a, et on parle aussi des retombées de météorites, ont lieu dans des zones où il y a beaucoup d'eau ou beaucoup de désert d'ailleurs.
Si un accident se profile sur une de ces villes, est-ce qu'on est capable d'intervenir avant ?
Alors avant, c'est compliqué parce que la trajectoire finale va être rapide. Donc il aurait fallu anticiper, peut-être en découpant la station en plusieurs morceaux ou que sais-je, mais dans les derniers temps avant la rentrée atmosphérique, il est très difficile d'intervenir et peut-être que la solution serait pire que de ne rien faire d'ailleurs. Parce que là où il y a un objet, si on essaye de la couper en plusieurs morceaux, il y en aurait plusieurs.
Mais comment on pourrait faire concrètement ?
Eh bien, si on
avec
s'y prend,
missiles, avec
si on s'y prend à l'avance, on peut envisager des désorbitations à long terme. Si il y a encore des moyens de contrôle à bord, comme dans beaucoup de cas, on va faire en sorte de faire entrer l'objet au-dessus d'une zone inhabitée. Le Pacifique Sud est très souvent cité pour cela, mais dans les derniers temps, il n'y a plus moyen quasiment de rien faire. Il faut juste laisser l'atmosphère jouer son rôle et faire se consumer la plus grande partie de la station.
Et prier le ciel.
quelle taille feront les plus gros débris qui pourraient arriver sur la Terre ?
Alors tout dépend de quoi est constituée la station finalement. Il y a des matériaux qui sont très légers. Les panneaux solaires par exemple, ce sont des choses relativement fragiles. Des morceaux de réservoir, ça c'est quelque chose qui est très solide. Et quand il y a un objet qui touche la surface de la Terre, souvent ça va être un morceau de réservoir ou quelque chose qui est conçu pour être très résistant à l'entrée à l'atmosphère. Donc ça va être des pièces de ce type-là, si tant est qu'il y en ait qui atteignent la surface.
C'est plusieurs centaines de kilos un réservoir, c'est ça ?
Ça peut être plusieurs centaines de kilos, comme ça peut être quelques centaines de grammes, tout dépend de la composition et la manière dont va rentrer la station dans l'atmosphère. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il est difficile de prévoir à l'avance.
Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé vraiment avec cette station en 2016 quand les Chinois ont perdu le contrôle ?
Alors, il faudrait demander aux autorités chinoises.
Ils n'ont pas communiqué du tout.
Les opérateurs en charge de la station. Tout ce qu'on voit dans les paramètres d'orbite, c'est qu'à partir de début 2016, la trajectoire n'évolue plus que naturellement. Il n'y a plus eu de correction de trajectoire pour maintenir l'altitude à peu près constante, justement pour éviter qu'elle ne rentre dans l'atmosphère.
À l'Observatoire de Paris, vous suivez-vous personnellement l'arrivée de cette station et sa trajectoire ? Est-ce que ça a un intérêt pour vos recherches particulièrement ?
Alors d'une manière générale, au sein de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérines, nous étudions les trajectoires de tout ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. Mmh. Objets naturels, objets artificiels, et c'est l'occasion de mettre en développement un certain nombre de méthodes. Ce n'est pas l'Observatoire de Paris qui est en charge de la surveillance opérationnelle de ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, mais nous travaillons en collaboration avec le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, les militaires américains, l'armée de l'air, pardon, et en collaboration internationale avec les autres puissances spatiales, les Américains, les Russes, les Chinois en particulier.
Est-ce qu'en dehors de la France métropolitaine, il y a d'autres zones d'impact possibles sur la carte française ?
Alors, la trajectoire survole un grand nombre de pays et un grand nombre d'océans. Donc, je le disais, la France métropolitaine n'est quasiment pas concernée à l'exception de la Corse
et
de l'extrême sud du pays, Perpignan, par le 4, voilà. Dans les territoires et départements d'outre-mer, il y a certains d'entre eux qui ne sont absolument pas concernés par un survol de la station spatiale chinoise sur les prochains jours. Il y en a d'autres comme la Guyane par exemple où on va avoir deux passages par jour dans les prochains jours et là bon
il y a Kourou qui est là pour l'accueillir
tout à fait, pour le pâtir, voilà, retour voilà. Mais ça n'est qu'un confetti, c'était sur toute la surface de la Terre, donc encore une fois il est raisonnable de penser que tout se passera bien. De toute façon il faut attendre comme nous le disions.
Voilà, et la date est prévue donc pour l'arrivée sur Terre.
Pour le 1er avril.
Le 1er avril, et voilà. C'est pas un poisson. Hein.
Ce sera pas un poisson, voilà. Samedi ou dimanche peut-être.
Merci beaucoup.
Espérons qu'elle finisse comme un poisson et dans l'eau. Alors.
Absolument, bravo. Merci Florent Delefly pour vos explications. Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, on en sait plus sur l'homme de Ferraci I, ce fossile néandertalien découvert il y a un peu plus d'un siècle en Dordogne. C'est l'un des squelettes néandertaliens les mieux conservés au monde. L'étude récente de ses os par l'université du Pays Basque au moyen de la microtomographie à rayon X permet de confirmer qu'il a été enterré délibérément par ses congénères. Les analyses permettent également de mieux comprendre les pathologies dont il souffrait, scoliose, arthrite, autant d'indices permettant de déterminer les modes de vie des hommes de Néandertal il y a 42 000 ans. Notez qu'aujourd'hui démarre au Musée de l'Homme à Paris une grande exposition autour de Néandertal. Nous en reparlerons très prochainement dans l'émission. 1 million d'habitants de plus en Amazonie précolombienne, alors qu'une grande part de l'Amazonie demeure encore inexplorée. Une équipe de scientifiques de l'université d'Exeter en Angleterre publie cette semaine la découverte de centaines de traces d'anciens villages de zones reculées. Ils démontrent que les populations précolombiennes, entre 1250 à 1500, ne s'installaient pas seulement le long des principaux cours d'eau, mais également en forêt. C'est une découverte importante qui montre que la forêt tropicale a en réalité subi très tôt l'influence des populations d'agriculteurs qui l'ont occupée et domestiquée. Et puis, si les inventeurs de la photocouleur n'étaient pas les frères Lumière, mais plutôt Louis Ducos du Hauron, physicien et chimiste né à Langon, près de Bordeaux, une étude approfondie de ses textes et de ses photographies à l'aide d'un accélérateur de particules permet aujourd'hui de mieux comprendre les processus très complexes imaginés par ce pionnier. On comprend entre autres qu'il s'est appuyé sur la trichromie pour la colorisation de l'image, le rouge, le bleu et le jaune, une série de plusieurs tirages successifs le montre. Il existe des centaines de clichés de négatifs attribués à Louis Ducos de Hauron et le Centre de restauration des musées de France compte bien les étudier pour affiner les procédés de conservation de ces pièces particulièrement fragiles. Les frères Lumière eux-mêmes reconnaissaient s'être inspirés de Louis Ducos du Hauron.